C'est le regret de ma présidente et mon regret également parce que à la création du Haut Conseil, il y avait la volonté de Daniel Bousquet et de Brigitte Grisi, d'ailleurs actuelle secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, de pouvoir au sein de la même instance articuler les questions d'égalité professionnelle et le reste des questions traitant d'égalité femmes-hommes, puisqu'on sait bien qu'on ne peut pas parler de parité sans parler d'égalité professionnelle, on ne peut pas parler d'égalité professionnelle sans parler de violence, on ne peut pas parler de santé sans parler d'égalité professionnelle, enfin bref, tout est imbriqué. Pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait en 2013, et depuis, donc on a un Haut Conseil à l'égalité qui a rassemblé pourtant d'autres instances existantes et qui traite de tous les sujets, de la santé à la parité, à la question des violences, des stéréotypes, et de l'autre, un Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, qui d'ailleurs ne traite de l'égalité professionnelle que dans le secteur privé, puisqu'il existe une autre instance qui traite de l'égalité professionnelle dans le secteur public. Donc, même sur l'égalité professionnelle, c'est scindé entre le public et le privé. Donc c'est vrai que voilà, s'il devait y avoir une étape de nouvelle de franchie institutionnellement sur le terrain des instances consultatives en matière de droits des femmes, c'est vraiment de finir ce travail de rationalisation en rassemblant au sein du Haut Conseil à l'égalité aussi les questions d'égalité professionnelle. Donc cette structuration institutionnelle explique que comme le Haut Conseil n'est pas chef de file sur l'égalité professionnelle, il ne s'empare pas de manière centrale de sujets d'égalité professionnelle. Néanmoins, il peut traiter de toutes les questions, y compris l'égalité professionnelle. Et donc, sur la parité, nous avons travaillé par exemple sur la question de l'application des lois Copé, Zimmermann et loi Sauvadet sur la gouvernance des grandes entreprises. Donc c'est un volet d'égalité professionnelle. On l'a fait d'ailleurs avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Dans le rapport égalitaire qui a traité de la question de la politique de la ville, enfin des femmes habitant dans les territoires politiques de la ville et des femmes habitant en territoires ruraux, on a nécessairement traité de la question de l'emploi et de l'égalité professionnelle parce que c'est un gros sujet quand on sait que plus de 50% des femmes dans les territoires politiques de la ville ne sont même pas inscrites à Pôle emploi, donc sont en dehors du marché du travail, ou que le temps partiel concerne 4 femmes sur 10 en milieu rural quand ça concerne 3 femmes sur 10 en France. Donc là, dans ce rapport-là, le rapport égalitaire sur les femmes dans les territoires fragilisés, en particulier les femmes précarisées, on s'est intéressé aux questions d'emploi. Et pour moi, c'est vrai que si j'avais eu à pousser ce sujet-là, j'aurais énormément voulu m'atteler à la question des femmes dans le secteur des services et de l'aide à la personne. Parce qu'aujourd'hui, la plus forte probabilité de trajectoire professionnelle d'une femme quand elle naît en France, c'est d'être femme de ménage. Je dis femme de ménage entre guillemets parce que là aussi, même le nom, on pourrait dire agent d'entretien, mais je pense que c'est quand même fort de dire femme de ménage parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est le métier qui rassemble le plus de femmes numériquement. Et si on ajoute la question des femmes qui sont en charge du soin auprès des personnes âgées, des personnes dépendantes plus généralement et des enfants, on est voilà, sur la famille professionnelle qui rassemble vraiment le plus de femmes quand les hommes vont avoir le plus de chances d'être dans le bâtiment, par exemple. Et du coup, on sait que dans ce secteur-là, il y a énormément de progrès à faire parce que c'est des femmes qui ont des horaires morcelés, qui ont des horaires atypiques, dont on ne paie généralement pas les déplacements entre deux personnes âgées ou deux ménages, dont on sait qu'il y a une pénibilité au travail qui est mal mesurée, dont on sait que c'est des secteurs aussi propices aux violences.